Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Urbania et Liberté. Au programme, j'ai acheté une maison pendant la pandémie et voici ce que j'ai appris. Et le régime de la dissipation. Bonne écoute.
J'ai acheté une maison pendant la pandémie et voici ce que j'ai appris. Trois nouveaux propriétaires prennent du recul sur leurs biens immobiliers pandémiques. Un texte de Justine Leblond, paru le 22 février 2023 dans Urbania. Les deux dernières années ont été rock'n'roll dans le marché immobilier, c'est le moins qu'on puisse dire. Et maintenant que les taux d'intérêt montent en flèche, ça nous fait réévaluer certaines décisions prises peut-être un peu trop sur un coup de tête. Alors, qu'avez-vous appris en regardant votre achat de maison pandémique avec un peu de recul? Êtes-vous toujours content, contente? Avez-vous des regrets? Témoignage. Adrien. Un chalet en forêt. La pandémie a été une vraie prise de conscience pour Adrien, 40 ans, fondateur et président d'une PME à Montréal. Lui, qui avait toujours vécu dans une colocation en ville, habite désormais dans une maison en forêt style chalet à environ une heure de route de Montréal. Je suis un gars qui va extrêmement vite dans la vie. J'ai toujours habité en ville. J'ai énormément voyagé. Et puis bon, j'avais des habitudes aussi un peu nuisantes pour ma santé, on va dire, avec la ville, le stress lié au travail. Donc, c'est une amie qui m'a dit « Adrien, tu sais, faut que t'arrêtes de vivre comme ça. » C'est elle qui m'a un peu éclairci sur la possibilité d'aller vivre en dehors de Montréal. Ni une ni deux, après lui avoir fait cette réflexion pendant la pandémie, son ami l'a emmené visiter des maisons. Je me rappellerai toujours de cette journée où mon ami m'a appelé et m'a dit « Viens, on va aller voir des maisons, on n'a rien à faire, les bars et les restaurants sont fermés. » C'était vraiment pas prémédité, se souvient Adrien. Au bout de 8 visites, l'entrepreneur a un coup de cœur. Cette maison n'était pas dans mon budget, mais j'ai fait le choix d'emprunter plus que prévu. Et j'ai pu négocier un peu. Le propriétaire avait plusieurs choix, mais j'étais le seul qui n'avait pas pour projet de casser sa construction en bois ni de déraciner les arbres autour, alors il m'a choisi. Mais je l'ai eu juste avant que le marché devienne complètement fou. Adrien a déménagé le 1er mars 2021. Il a pris un prêt à taux fixe, car ce n'était pas le moment de prendre un taux variable. J'en ai entendu des belles. J'ai évité tout ça de justesse. Et il a trouvé une solution pour rembourser son prêt, mettre sa maison en colocation. C'est sûr qu'au début, c'était difficile. C'est une grande maison, j'ai pas d'enfants, je suis pas marié. C'est trop grand pour y vivre tout seul. Donc, depuis bientôt un an, je suis en colocation avec une femme que je ne connaissais pas au départ. Mais désormais, on est devenus amis. Et ça fonctionne super bien. Depuis, Adrien revient à Montréal 2 à 3 fois par semaine pour son travail. Le reste du temps, son bureau est chez lui. La pandémie a été une vraie souffrance pour moi, de voir que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Alors aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Je me sens bien, j'ai ralenti mon mode de vie. C'est une très belle maison en bois. Et je suis entourée d'arbres, dans un environnement beaucoup plus serein, aéré. J'ai un chien qui m'accompagne. Je suis chanceux. Lucie, un condo dans Rosemont. Il y a ceux et celles qui ont fait le choix de quitter la ville et d'autres qui ont pris la décision inverse. Comme Lucie, par exemple, 61 ans, qui a déménagé à Montréal en juillet 2022 avec son mari. J'étais enseignante à Rimouski et on a décidé de prendre notre retraite à Montréal car mes trois enfants habitent ici, explique-t-elle. Lucie a acheté un condo dans le secteur de Rosemont en décembre 2021 et a vendu sa maison à Rimouski. Si le départ pour Montréal était prévu depuis plusieurs années, un facteur inconnu s'est rajouté à l'équation. On a attendu de prendre notre retraite pour acheter à Montréal, mais on ne pensait pas qu'il y aurait une plombée des prix. Ce n'était pas prévu dans notre budget. C'était assez astronomique, l'augmentation des cours, la surenchère, raconte Lucie. Les prix du marché ont énormément grimpé entre 2020 et 2022, soit en pleine pandémie. Ça commençait à devenir compliqué de partir quand on a vu que le marché avait beaucoup bougé. Mais c'est certain que nous, on avait quand même financièrement les moyens parce qu'on est à la retraite et qu'on a beaucoup économisé dans notre vie. Ce n'était pas notre première propriété, donc chaque précédent investissement a été un petit levier financier, si on veut. Si ça avait été notre premier achat immobilier, ça aurait été impossible de payer les prix demandés, encore plus avec la surenchère. Lucie et son compagnon ont dû se démarquer de la quarantaine de visites qu'il y a eu juste sur une fin de semaine. Il a fallu faire une offre, puis une suroffre. Son emprunt, Lucie l'a pris au taux variable, d'habitude plus avantageux. Mais avec la bulle immobilière de la pandémie, Lucie se demande avec du recul s'il n'aurait pas fallu faire l'inverse. On aurait dû prendre le taux fixe. Mais on avait déjà fait nos recherches et d'habitude, le taux variable s'avère toujours plus avantageux. C'est peut-être le seul regret qu'a Lucie, qui se dit par ailleurs très satisfaite d'avoir acheté ce condo et de ne pas avoir attendu plus, de peur que l'investissement devienne impossible. La situation devenait pressante. Et on avait la crainte d'être obligé de louer avec le risque d'être délogé par le propriétaire s'il voulait reprendre l'appartement. Donc, on a conclu que c'était préférable pour nous de prendre un condo maintenant plutôt que d'attendre encore. Véronique, un condo dans Rosemont. Véronique, 42 ans. Travaille dans la fonction publique provinciale. Elle a aussi acheté un condo dans Rosemont en mars 2022. Je magasinais déjà depuis plusieurs mois et j'étais découragée par les prix élevés et la surenchère. Je sentais que c'était la dernière chance pour moi de devenir propriétaire, surtout à Montréal. Alors j'ai revu mes priorités et mon budget. J'ai pensé à long terme. Pour Véronique, le plus important était de rester dans son quartier. Elle vivait déjà à Rosemont comme locataire et était attachée à son environnement quotidien où elle pouvait tout faire à proximité. J'ai mis de côté quelques attentes que j'avais, comme celle d'avoir une cuisine moderne ou une salle de bain de rêve. J'ai opté pour un petit condo vieillot, mais en bonne condition. Pas de tape à l'œil. Comme la fiche de l'agent immobilier n'était pas attrayante, je n'ai eu aucune surenchère à faire et j'ai même pu négocier à la baisse. Véronique a choisi le taux variable avec un plafond. J'aurais dû prendre le taux fermé qui serait légèrement plus bas que ce que je paye en ce moment. Aujourd'hui, Véronique ne regrette aucunement cet achat qu'elle voulait faire depuis longtemps. Mais elle n'aurait jamais pu se l'offrir sans le soutien de sa mère. Si j'ai pu acheter ce condo, c'est parce que j'ai hérité d'une somme d'argent. Ma mère est décédée pendant la pandémie. Elle voulait que je m'achète quelque chose à moi à Montréal parce qu'elle savait que c'était mon rêve. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une maison pendant la pandémie et voici ce que j'ai appris, un texte de Justine Leblond, paru le 22 février 2023 dans Urbania.
Le régime de la dissipation, un texte de Colin Pratt, paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la revue Liberté. Colin Pratt est candidat au doctorat en sociologie et chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS. Jeter des marchandises neuves n'est pas une dérive, mais une étape normale de la surproduction. Le 1er novembre n'est pas une date comme les autres pour les doloramas de ce monde. Au lendemain de la fête d'Halloween, les décorations et autres babioles accumulées sur les étalages doivent faire place à celles du Noël prochain. Comment évacuer ces marchandises devenues encombrantes? Dans une épicerie de Laval, des couvercles de plastique pour boissons encore emballées et inutilisées s'empilent par centaines dans l'arrière-boutique, posant eux aussi la question de leur évacuation. Plus à l'ouest, à la Chine, un centre de distribution de vêtements divers de qualité ne sait que faire de ces dizaines d'échantillons de feutres et de guêtres, de bottes d'hiver. À l'occasion d'un mémoire de maîtrise, je suis allé durant près de 2 années à la rencontre de ces situations commerciales à travers une observation attentive de la solution trouvée pour les 3 cas de figure décrits. Les poubelles de commerce, soit le chemin qu'ont emprunté tant le surplus de décoration du Dollarama que les emballages plastiques de l'épicerie lavalloise et les échantillons textiles à la Chine, ainsi que de nombreux autres artefacts recensés dans une dizaine de commerces différents. On aura détruit, rendu déchets, des objets encore intacts pour mieux renouveler un processus de vente aux prises avec un surplus systémique. Dans le capitalisme dit avancé dans son degré d'accumulation de capacité productive, non seulement les marchandises doivent-elles avoir cette faculté économique de pouvoir se transformer en argent, mais elles doivent également détenir la propriété de se muter en déchets lorsque les conditions de marché l'exigent. Au terme de l'opération de destruction de l'usage invendu, les catégories de déchets et de poubelles se voient alors forcées pour accueillir en leur sein des « déchets neufs », oxymore contemporain qui rend caduque la définition classique de « déchets » inscrite au dictionnaire et oblige la création de néologismes pour rendre compte de ces matérialités nouvelles. Au rang des néologismes nécessaires, un verbe, cette action qui génère le déchet, « déchetariser », qui se distingue des termes trop approximatifs « gaspiller » et « éliminer », afin de mettre en évidence la condition de la plupart des déchets contemporains dus à des actions social-économiques systémiques, bref, à un régime de production de déchets. Le isme qui nous manque. la forte expansion du marché capitaliste à partir de la seconde moitié du XXe siècle a contribué à la diffusion dans le discours général du vocabulaire critique lié aux sphères de la production et de la consommation. D'abord, l'avalanche de marchandises et leur promotion ont eu au fait de se laisser désigner par le terme « consumérisme », mot qui dépasse désormais le milieu initié des critiques de la culture et a percolé dans le langage autocritique de celles et ceux qui s'y adonnent, tout en s'en excusant. De façon concomitante, le productivisme, soit cette hyperproduction qui rend possible et engendre la surconsommation, est également bien présent dans le discours sur le travail, pour parler par exemple du phénomène de l'épuisement professionnel ou des conséquences de cette norme sur la santé mentale en général. Au tournant du 21e siècle et au croisement de l'écologisme montant, de la critique décoloniale et d'une littérature d'Amérique latine gagnant le Nord, une autre sphère du marché est apparue dans le vocabulaire, celle de l'extraction ou de l'extractivisme, comme condition évidente de tout acte de production et de consommation. Dans les périphéries albertaines, abitibiennes, chiliennes, congolaises et autres, énergies fossiles, biomasse et minéraux sont extraits à une échelle inégalée, la frontière de cet extractivisme étant repoussée sans cesse pour laisser chaque fois derrière des écosystèmes ravagés et des populations dépossédées. En somme, trois sphères, extraction, production, consommation, permettent de rendre compte des différents moments solidaires et autonomes du régime d'exploitation capitaliste et de la genèse de l'accumulation de profits. Or, ce portrait est incomplet et comporte un angle mort, car, en conséquence de la consommation et à l'occasion de la production et de l'extraction, des quantités inouïes de matières sont déversées, enfouies, incinérées, recyclées ou compostées. Quel isme pourrait désigner ce moment in fine de dissipation, d'évacuation, de déchétérisation? Quel mot permettrait de traduire cette pression capitaliste à dissiper, tout aussi forte et nécessaire que les trois ismes précédents, soit l'extractivisme, le productivisme et le consumérisme? Faute de mieux, nous proposons ici le terme « dissipatisme » pour désigner les processus massifs et diversifiés de production et d'évacuation des résidus de l'activité sociale économique expansive. Ces quatre moments solidaires posent chacun leurs limites respectives, que le capitalisme s'efforce de repousser pour mieux accumuler, avec les conséquences que l'on connaît. L'extraction soulève la question de la rareté et de l'accessibilité des réserves énergétiques et matérielles de la Terre. La production, celle des limites psychologiques et physiques de la main-d'œuvre, qu'on dit ces temps-ci en pénurie. La consommation, les notions de besoin et de désir qu'il s'agit d'amplifier. Enfin, la dissipation renvoie pour sa part à l'enjeu des changements climatiques et de la pollution en général. La limite étant ici la capacité de l'atmosphère et des écosystèmes à absorber les résidus solides, liquides et gazeux de l'activité des sociétés humaines, sans pour autant provoquer de catastrophes et d'écocides à large échelle. Plus encore que la rareté des sources d'extraction, on comprend de plus en plus que la limite à la croissance capitaliste et aux sociétés industrielles avancées se loge dans la capacité d'absorption des différents puits naturels, atmosphère, sous-sol, océan, etc. Sollicités au moment de la dissipation, déchétérisation des déchets, qui ont atteint à l'échelle mondiale 111 milliards de tonnes en 2015, 1 milliard de tonnes équivalent à 400 000 piscines olympiques. Cette quantité de déchets est appelée à doubler d'ici 2050. Afin de repousser ces seuils d'absorption toujours plus loin, des investissements sont réalisés entre autres dans différentes technologies de captation et de séquestration du carbone, ou dans des projets fantasmagoriques de géo-ingénierie, comme diffuser du soufre dans l'atmosphère pour en diminuer l'effet de serre. L'objectif de tout cela? Augmenter la capacité de l'atmosphère à absorber des GES, sans pour autant devoir diminuer l'extraction, la production et la consommation en amont. Le dissipatisme, cette pression à dissiper les résidus de façon croissante, est ici formulé de telle sorte que l'activité économique ne s'en trouve pas restreinte. Lorsque le camion de vidange fait son passage hebdomadaire, lorsque nos déchets électroniques sont exportés et déversés dans des lieux éloignés pour y empoisonner les populations anonymes, lorsqu'on peine à réglementer l'obsolescence programmée pourtant insensée, et lorsque ces projets saugrenus de réglage de l'effet de serre de la Terre sont envisagés, tout cela relève d'un régime de dissipation, dans lequel les déchets engendrés doivent être dissipés, évacués, comme autant de faits accomplis permettant de maintenir un rythme de production effréné, justifié par le caractère profitable des activités dont ils sont issus. Vous écoutez « Le régime de la dissipation », un texte de Colin Pratt, paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la revue Liberté. Contours d'un régime de production de déchets. En 2018, l'entreprise de vêtements H&M a fait les manchettes en raison des 4 milliards de dollars de vêtements invendus empilés dans ses entrepôts en Suède. Une partie de ces vêtements ont été brûlés dans une centrale électrique construite à Västerås, où H&M nie incinérer des vêtements neufs malgré des témoignages contradictoires. Ici peut s'observer cette vérité banale de l'économie de marché capitaliste, dont la principale finalité ne réside pas dans la production de biens et services socialement utiles, mais plutôt dans leur annexion à l'horizon du profit. Lorsque ces marchandises débordent au point de menacer les prix de marché, on les détruira sous couvert d'économie circulaire en invoquant l'énergie électrique générée à partir de ce qu'un des responsables de la centrale de H&M range dans la catégorie des carburants renouvelables et recyclés. Habituellement, la stratégie d'affaires prisée par ces entreprises textiles pour écouler leurs stocks est l'obsolescence symbolique, soit cet effet de mode qui place une date de péremption sur les vêtements, stratégie exacerbée par la fameuse « fast fashion ». Or, lorsque cet effort d'obsolescence et la cadence de production de vêtements en usine ne sont pas en phase, comme ce fut le cas en 2018 pour H&M, l'obsolescence, soit l'opération visant à terminer l'usage d'un objet avant son terme possible, prend une forme plus explicite et immédiate. La destruction par combustion, qui a le défaut de choquer les esprits, puisqu'on ne parvient pas à déguiser le gaspillage à l'œuvre en effet de mode ou en tendance printanière. L'entreprise Amazon a périodiquement à se défendre de procéder à ces actes de destruction qui choquent et qu'on tentera de camoufler. Des produits, téléviseurs, jouets, vêtements, etc., qui pour une raison ou pour une autre sont retournés aux entrepôts, sont parfois détruits en catimini. Ici, le scandale provoqué lorsque cette pratique fait la nouvelle démontre que la politique de gestion des retours ne permet pas de légitimer la déchetterisation avec le même succès que les procédés de marché usuels et normalisés, les changements de modèle, les innovations cosmétiques et esthétiques, l'usage unique, l'obsolescence, etc. Dans les deux cas, que la déchetterisation procède par destruction ou par effet de marché, les marchandises sont transformées en déchets en puissance. Cette trajectoire commune aux marchandises achève la constitution d'un régime de production de déchets comme attribut essentiel du marché, aux prises avec l'exigence de dissiper les résidus de la surextraction, de la surproduction et de la surconsommation. Des déchets délétères, mais instructifs. Que nous révèlent les déchets? Ils nous enseignent la radicalité du caractère non économique de notre économie capitaliste, soit sa forte propension à gaspiller pour prospérer. Chaque téléphone qui se brise avant son temps, chaque décoration d'Halloween du Dollarama, vendue puis jetée, ou invendue puis mise à la poubelle, chaque vêtement démodé ou carrément brûlé à la source crée, paradoxalement, de l'argent, du PIB, des emplois, de la croissance, celle-ci restant aveugle aux conséquences écologiques et sociales qu'elle entraîne. Les déchets et, surtout, les processus économiques qui les génèrent en masse sont en somme autant de témoins silencieux de l'irrationalité du capitalisme, système pourtant présenté comme triomphe de la raison, du calcul et de la technique. Or, ces déchets témoins multiplient ces temps-ci les coups d'éclat, réchauffement climatique, perturbateurs endocriniens, continents de plastique, etc. Ils nous obligent à nous y intéresser, à les comprendre pour ce qu'ils sont, des objets politiques, historiques, résidus d'usage et de processus socio-économiques qu'il s'agit d'interrompre au plus vite. C'était Le régime de la dissipation, un texte de Colin Pratt, paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la revue Liberté.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.ucevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Robert Chartier à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.